I'm not surprised, motherfuckers.
Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode numéro 122 du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, on parle de One Fight Night 20 sur la carte Amazon Prime hein, aux États-Unis et au Canada. Et carte 100% féminine pour la journée internationale de la femme. Hein, bien sûr, en bonne compagnie qu'elle est, One Championship aime faire des événements autour de cette journée. Mais l'important, c'est qu'on avait des belles combattantes dans le ring en ce vendredi. Franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé le co-main, le main. Et on va revoir ensemble un combat. On va revoir les trois combats principaux de cette carte, à savoir un catchweight en Muay Thai entre Jackie Buntan et Martin Micheletto. Le titre chez les Atomweight en Muay Thai entre Alicia Rodriguez et Cristina Morales, l'espagnole. Hein, donc Alicia Rodriguez qui est la championne en titre du Brésil et une unification en kickboxing chez les Atomweight entre Fetija The Queen face à Janet Todd hein, qui elle était la championne en titre et Fetija qui était la championne intérimaire après avoir... Désolé du terme, mais pas mal roulé sur notre Anissa Mexen. C'était dur de voir ça pour Anissa, surtout après une longue période d'absence. Mais Fetija avait beaucoup impressionné. Et Fetija donc allait chercher l'unification de sa ceinture chez les Atomweight face à Janet Todd. On va parler de ces trois combats. Donc je vous propose de commencer entre ce catchweight. Donc à 130 livres entre Jackie Buntan et Martin Micheletto. Alors ce combat était agréable à regarder parce qu'il y avait beaucoup d'action et j'ai beaucoup aimé le combat de Jackie Buntan. Ça a été compliqué hein, pour l'Italienne qui a un peu fait face à un mur, hein, qui est rentrée dans un mur à chaque fois qu'elle a voulu rentrer dans Jackie Buntan. Au premier round, Buntan feinte beaucoup ses kicks en approchant mais dégaine déjà. Après des belles préparations de kick, elle feinte les mains pour aller vers le haut, elle va chercher des middle, alors ça c'était très beau. Micheletto se fait connecter avec un crochet en rentrant dans la poche et ça, ce sera vraiment un gros problème pour l'Italienne sur tout le combat. Elle aura beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dans la distance, hein. Alors que la différence de taille est grande, hein, c'est vraiment l'Italienne qui a le range pour elle, mais c'est elle qui aura le plus de difficultés à rentrer dans la distance pour pouvoir aller chercher Jackie Buntan dans sa zone. C'est compliqué. Micheletto essaie de framer dans le clinch, mais Coste sépare assez vite. Micheletto respecte déjà Buntan, hein, et reste à distance, mais Buntan connecte toujours très bien avec cette jambe arrière. Buntan punit Micheletto avec les low kicks et l'Italienne rejoint son coin, le nez en sang. Elle s'est fait connecter une paire de fois dans ce premier round. C'est déjà compliqué pour la contender italienne. Round 2, quand Buntan se fait pousser contre les cordes, elle cherche à boxer agressivement en retour. Le sang de Micheletto est partout sur son visage, hein. Son nez a vraiment pris cher. L'Italienne essaie de rentrer agressivement dans le clinch, on dirait un peu du désespoir, je vous avoue déjà, hein, dans le deuxième round. Les mains de l'Italienne ne fonctionnent absolument pas et les kicks de Buntan la tiennent à distance, hein. En fin de round, à la moitié, hein, l'Italienne essaye de pousser encore un peu, mais Buntan répond toujours encore avec ce maudit crochet gauche qui aura connecté deux fois, mais deux fois vraiment sale et clairement l'Italienne est affectée au niveau du damage. Round 3, l'Italienne avance toujours et travaille mieux ses kicks, mais Buntan est toujours imparable avec ses middle. Bon type aussi, hein, des types et des types et encore des types et des 1-2 derrière, ça connecte bien pour Buntan, c'est simple mais c'est efficace. La grosse gauche de Micheletto, pleine poire de Buntan qui enfin commence à reculer. On est trop tard, on est dans le fin du troisième round. Beaux échanges de kick en fin de round, belle guerre hein, quand même. Je ne veux absolument pas retirer de props à l'Italienne qui a toujours voulu avancer. Mais comme je vous le dis, vraiment, elle a fait face à un mur. Il n'y avait absolument pas moyen de rentrer dans la zone pour les deux premiers rounds. Vraiment compliqué pour l'Italienne, hein. Jackie Buntan qui a une belle expérience chez One et en professionnel, en kickboxing et en Muay Thai. Voilà, c'était vraiment une victoire un peu à sens unique, j'ai envie de vous dire, pour Jackie Buntan. Qui, écoutez, elle a 26 ans, hein, vraiment, elle a un bel avenir devant elle. Elle est à 3 victoires d'affilée. Bon, après, elle a perdu sa dernière défaite, c'était contre Smila Sundell, qui est la championne en titre, hein. Elle a gagné ensuite contre Amber Kitchen, Diandra Martin, et maintenant l'Italienne Martin Michieletto. Voilà, 3 victoires de suite, hein, sur un plus à chaque fois, elle combat sur des grosses cartes. Donc je pense qu'on devrait la revoir assez vite. Je pense qu'elle veut se battre à 125. Elle, on était chez les catchweight à 130. Écoutez, on sait qu'elle est bonne à la philippino-américaine. Et puis on la reverra vite. Combat sympa, écoutez, ça m'a bien plu. On passe au combat suivant chez les Atomweight en Muay Thai entre Alicia Rodriguez, la championne, et Cristina Morales. Alors, l'expérience de la championne, hein, on en parle souvent, l'expérience du champion. Alicia a vraiment été dans l'expérience du champion. Je trouve que elle a été un peu passive sur les premiers rounds, mais quand elle a commencé à accélérer, en fait, tout son game plan était bien timé. Quand elle a commencé à accélérer, Cristina Morales a été vraiment overwhelmed. Ça a été compliqué pour l'Espagnol. Dans les rounds de fin, hein, sur les deux et les sur les pardon, quatrième et cinquième, ça a été très, très compliqué. Cristina Morales, elle a toujours voulu aller vers l'avant, hein, dans le premier round. Elle est agressive directement. C'est elle qui pousse contre les cordes. C'est elle qui boxe. On a pas mal de clinch et ce sera aussi un peu ce combat-là, la bataille du dans la poche en clinch. On est en Muay Thai, donc Olivier Coste n'a pas à couper trop vite. Il y a des séquences, je trouve encore une fois à mon goût, ça coupe trop vite, mais il y a des séquences. Quand Alicia Rodriguez passait des genoux et restait active, Olivier Coste ne coupait pas le clinch. Donc, c'est logique aussi de couper le clinch quand il est un peu stérile, hein, qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais par contre, quand ça commence à être, qu'il y a avoir du damage et qu'il y a les genoux pardon, qui enchaînent 1, 2, 3 avec le public derrière qui scande, ni, ni. C'est bon, hein, à la taille, ça fait plaisir. C'est cool. Et Alicia Rodriguez était vraiment bonne là-dedans. Je pense qu'elle a fait mal au corps aussi de Cristina Morales, qu'elle lui a cassé un peu la cardio. Ça a été bon. Bon, Morales, par contre, a poussé vraiment plus dans les premiers rounds. Mais il faut parler de damage. Damage, c'est vraiment important dans le scoring en Muay Thai. Et il y a aussi l'exécution technique et puis l'efficacité de l'exécution technique. Et là, Cristina Morales, malheureusement, a beaucoup tapé dans la garde d'Alicia Rodriguez, qui a gardé vraiment sa garde haute et qui a gardé une garde disciplinée tout au long du combat. Bon, elle en a mangé quelques-unes, mais dans les premiers rounds où Cristina Morales vraiment avançait beaucoup sur elle, Alicia Rodriguez, elle se prenait pas tant de coups que ça, quoi. Au final, ça n'a pas eu beaucoup de damage. Et c'est ça aussi, je pense, qui a joué dans la balance et qui a donné la défense de ceinture pour la championne en titre, la brésilienne Alicia Rodriguez chez la Bantamweight. Morales, hein, elle est très vive sur les entrées. Par contre, comme je vous le dis, Rodriguez reste très forte sur ses appuis. Ça ne bouge pas. La brésilienne commence à timer ses kicks en plus en fin de round. Morales avance avec des crochets larges. Attention à ton menton, Christina. Round 2, Morales toujours agressive. Hein, même game plan, on lui rentre dedans. Des combis 1, 2, 3. Ça, par contre, j'ai bien aimé le volume de l'Espagnol. Hein. Après, l'efficacité, comme je vous le dis, n'était pas forcément là parce que ça ne connectait pas. Mais le volume était bon. Rodriguez coupe les assauts en allant clincher, ça c'est smart. La brésilienne time quelques tips aussi. Rodriguez cherche les coudes dans le clinch. Alors on voit que la brésilienne va essayer d'aller chercher du damage dans toutes les situations. Ça aussi c'est l'expérience de la championne. Morales commence à changer un peu les niveaux. La plupart des assauts, comme je vous le dis, finissent dans la garde, mais c'est l'espagnole la plus entreprenante. Petite séquence de clinch avec quelques genoux sympas. Peut-être les 2 rounds pour l'espagnole, mais encore une fois, hein. Là, on n'est pas vraiment dans du round par round, on est plus sur le ressenti général du combat, hein, pour le scoring. Donc, comme je vous le dis, au niveau du damage, c'est plus Alicia Rodriguez qui gagnerait. Round 3, Rodriguez continue d'être plus agressive dans le clinch. Morales enchaîne toujours les combinaisons en anglaise, hein, mais tout dans la garde. Par contre, Rodriguez commence enfin à avancer et travailler le corps. Et là, ça commence à être compliqué pour Cristina Morales, hein, quand on commence à prendre beaucoup de coups dans le corps comme ça. Ça commence à être dur. Magnifique coup de genou dans le clinch. La champ remporte vraiment le clinch. Hein. L'Espagnol essaye de scorer sur le striking, mais comme je vous dis, pas assez de damage. Quatrième round, Morales pousse toujours avec des combis en avant vers les cordes. Rodriguez encore avance timidement, mais au moins on va plus vers l'avant. La brésilienne se libère en deuxième partie de round et passe la seconde. Hein. Clairement, là on voit qu'elle va limite aller chercher un finish. Morales est assailli contre les cordes et encore ses genoux dans le clinch qui font mal. Morales recule enfin, enfin l'Espagnol recule. Ses coups au corps font très très mal et des gros kicks au corps pour finir le round pour Rodriguez. Excellent round de la championne en titre brésilienne, Alicia Rodriguez. Round 5, Morales, il va agressif directement. Hein. Rodriguez est poussé contre les cordes, mais tip et clinch pour casser le rythme. Superbe type de Rodriguez, les body kicks de Rodriguez sont lourds. Morales commence à combiner dans le vide. Comme je vous le dis, à partir 4e, 5e, c'est très compliqué pour l'Espagnol. Elle mange des sales counters en plus. Et ces maudits types de la brésilienne qui sont très compliqués à gérer pour Cristina Morales. Et c'est Alicia Rodriguez qui prendra la décision. Je vous le dis encore une fois, l'efficacité de la technique et le damage. Clairement du côté de la brésilienne, de la champ, et c'est ça qui lui donne la ceinture, tout simplement. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça un peu timide de la brésilienne, mais le game plan et l'exécution, la froideur, hein, le côté clinique, hein, du game plan de la brésilienne, bah ouais, attitude de champ, et franchement pas mal pour la brésilienne qui... évidemment, veut retourner dans le ring face à Stamp, hein, après qu'elle l'ait dit, après son post-fight interview, pardon. Non, pendant son post-fight interview, qu'est-ce que je raconte? Dans le ring, évidemment, elle call out Champ, Stamp, excusez-moi. Donc voilà, c'est cool. Franchement, bravo. Bravo pour Alicia Rodriguez. De toute façon, j'avais bien aimé déjà sa performance face à Smilla Sundell. Bon, après, Smilla Sundell est très complet, est vraiment son premier round, on va dire. Mais Smilla Sundell est ingérable. Et puis là, ça a été une belle revanche pour elle-même. Elle qui a battu Stamp, il me semble, à la décision majoritaire. Ouais, c'est ça, pour une vieille carte en 2020, me semble-t-il. Elle a battu Janet Todd en 2023. Bon, elle perd contre Smilla Sundell. Ça, c'était... Bon, j'ai dit que j'ai bien aimé sa performance. Mais oui, j'ai bien aimé, mais Smilla était trop forte, là. C'était compliqué, mais là, vraiment, classe d'écart avec Cristina Morales sur l'exécution, sur l'efficacité, sur le damage, sur les genoux, dans le clinch. Enfin, voilà, c'était super, super intéressant. Bon, l'Espagnol est une championne de K1, mais ouais, ça... Avec les petits gants, là, c'était... Ah, avec les petits gants. Oui, avec les petits gants, ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué pour l'Espagnol qui n'a pas réussi à connecter. Bravo à la championne en titre, Alicia Rodriguez. Voilà, c'est un beau rebond après cette défaite face à Smilla Sundell. Et on peut passer au main event. Alors, celui-là, je l'attendais, hein, parce que Fejija, comme je vous l'avais dit tout à l'heure... Je trouve qu'elle a pas mal roulé quand même, hein, sur Anissa Mexen. C'était dur de voir Anissa Mexen en difficulté comme ça. Et quelle démonstration, encore une fois, de la queen, la thaïlandaise Fejija face à Janet Todd qui, quoi qu'il arrivait dans ce combat-là, prenait sa retraite. Hein. Donc déjà, bravo pour la carrière de l'américano-japonaise Janet Todd. Ça a été une démonstration pendant 5 rounds de la thaï. Genre vraiment, ça bougeait vite des deux côtés au premier round. Hein. Les 1-2 de Fejija font peur déjà. Les types de la thaï sont super bien timés. On voit que ça va être un problème pour Janet Todd. Les entrées-sorties de la thaï sont exceptionnelles. Hein. Todd est bien active, mais ça va bien trop vite pour elle. Fejija ouvre le bas du corps de l'américaine, clairement, hein, pour aller timer et créer des ouvertures pour des puissants middle kicks. Ceux-là aussi feront mal à l'américaine. Round 2, ça part à 100 à l'heure avec des échanges au milieu du ring. Fejija feinte ses entrées pour timer des bombes, mais top des prudentes et garde sa garde haute. Et time ses counter jabs. Hein. Grosse bataille en anglaise, dans la poche. C'est un combat qui est très, très fun. Round 3, ça repart encore à fond. Todd est coincé dans les cordes et circule vite pour sortir, mais Fejija part à la chasse, clairement. La prédatrice est en mode action. Hein. Ça pousse direct derrière. Fejija veut timer de gros genoux. Les échanges de kicks sont coup pour coup. Et le timing de ses knees de Fejija est excellent. Ça va directement dans le corps. Et oh bordel, que ça doit pincer, que ça doit piquer, que ça doit faire mal. Hein. Vraiment, ça nous régale ce timing. Et les types passent bien aussi. Round à 200 km/h. Hein. Ce round 3 pour Fejija, ça dure être très très dur à suivre pour Janet Todd. Quatrième round, Fejija veut lui arracher la tête clairement avec un crochet ou une marée. On voit qu'elle veut envoyer les coups qui font mal. Changement de niveau sympa aussi. Hein. La taille laisse Todd combiner dans sa garde et prépare un gros counter derrière. Ça, c'est smart. Elle est vraiment dans le contrôle. Elle contrôle tout. Elle est dans la gestion, mais dans la gestion agressive et active. C'est incroyable le côté clinique de la... pas de la nouvelle championne, hein. Elle était intérimaire, mais maintenant, comme ça s'entend, évidemment, elle a roulé quand même pas mal sur Janet Todd. Ça devient compliqué pour Todd dans le quatrième, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les mouvements d'avancement de Feijie Jiang, hein. Elle bouge sa tête, elle va chercher des angles incroyables aussi, hein. Ça en striking, on vous le dit souvent, hein, il faut absolument aller chercher des angles. Alors les attaques en ligne, ça peut marcher, hein, surtout avec un meilleur range, ou alors un bon timing, ou alors avec des entrées-sorties vives. Mais aller chercher des angles, c'est très très important. C'est ça qui vous donnera de meilleures ouvertures pour donner les coups qui font mal et bien passer vos combinaisons, hein, vraiment. Round 5, dernier round pour la carrière de Todd. Feijie Jiang gère et taffe ses middle kicks tranquilles. Les jabs qui snap aussi sont très très beaux. Magnifique esquive de kick, hein, de la part de la Thaï en fin de round, qui va enchaîner derrière avec un low kick et une droite pleine poire qui knockera down Todd. Elle se relève vite, mais quand même un knockdown dans le cinquième round. La Thaï excelle. Vraiment, elle rentre en god mode, hein, dans le cinquième. Si vous n'avez pas vu ce combat, s'il vous plaît, allez le voir. Si vous n'avez pas vu le combat contre Anissa Mexen, allez le voir aussi, parce que Feijie Jiang, c'est du solide. Que ce soit en kickboxing, en Muay Thai aussi, elle sera solide. Vraiment, genre, je la vois indétrônable. Indétrônable, hein. 22 ans. 22 ans, hein. 1m60, 52 kilos. Hein. Alors là, on est chez les Atom. Son trainer, c'est Mehdi Zatout. Elle a aussi des combats professionnels en boxing. Elle a, je crois, plus de 200 combats. Elle a 22 ans, c'est les tailles normales, quoi. Bon, après, elle s'est battue que contre des tailles, hein, en boxing, donc on va y aller doucement. Mais je veux dire, elle a roulé sur Lara Fernandez, elle a roulé sur Anissa Mexen. C'est chaud, quoi. C'est chaud. Qui va pouvoir la battre, hein? Franchement, elle a perdu contre une japonaise en shoot boxing en 2017. Mais sinon, depuis ce temps-là, elle est invaincue. Elle est invaincue, quoi. Moi, franchement, elle est clinique, elle fait peur. Je serais vraiment terrifié d'aller me battre contre elle, si j'étais son adversaire. Phew, c'est chaud. Bon, maintenant, elle a unifié sa ceinture en kickboxing. Faudrait qu'elle aille chercher une ceinture en taille, hein, maintenant. J'ai envie de vous dire, quoi. Clairement, il faut qu'elle aille chercher une ceinture en taille. On est chez la Antomweight. Bon, voilà, ça peut être très intéressant. Feijie Jiang, quelle combattante. Et belle petite carte de One pour, encore une fois, la journée internationale de la femme. C'était cool d'avoir que des filles aussi. Le roster chez les filles est vraiment sympa, hein. Il y a du lourd. Il y a Stamp qui devrait revenir bientôt. Voilà, c'est du lourd, c'est du beau. Une belle petite carte de One encore une fois. Et puis, vive le pied-point, hein. Chez One, comme d'habitude, ça roule. On en a beaucoup. Il y a les Friday Fight le matin. Le vendredi matin ici au Canada, et chez vous en France, ça doit être l'après-midi, je pense. Et il y a du très lourd qui s'en vient. Il y a du très très lourd. D'abord, évidemment, je suis obligé de parler de la prochaine défense de ceinture de John DiBella face à Prajan Chai en kickboxing chez les strawweight. Sur cette même carte, hein, donc ce sera le Friday Fight 58 le 5 avril. Vendredi 5 avril, il y aura aussi Nongo qui va se battre. Et puis il y a Super Bon contre Marat, hein, ce sera pour une ceinture featherweight en kickboxing. Alors je suis obligé d'envoyer un petit carton jaune aussi, parce que se passe-t-il avec, évidemment, avec le Chingiz Alassov, hein, quelle est la gestion des champions chez One? Elle n'est pas bonne, hein, tout simplement. Des fois, j'en ai parlé plein de fois, j'en ai parlé avec Baba, j'en ai parlé avec Julien Cazier, j'en ai parlé avec plein de monde, et j'en reparlerai avec d'autres gens aussi, j'en ai parlé avec Carabine. Et j'en parlerai bientôt encore une fois tout seul. Petit projet à venir, ça prend du temps, mais j'y travaille, les amis, j'y travaille. Donc voilà, belle carte. Et puis, il y a aussi, évidemment, hein, championnat pour la ceinture entre Regan Herschel, The Immortal, face à Alexis Nicolas, hein, qui nous vient de France. Et je pense que voilà, il a des origines Haïti et aussi algériennes, en fonction des drapeaux dans sa bio sur Instagram. Donc ça, c'est assez fou quand même, hein, que bravo à son management qui a réussi à booker ce combat. Mais moi, ça faisait des mois là, que j'attendais des news de Regan Herschel, là, que se passe-t-il, voire des années, hein, pour le gars. Je ne sais même plus, ça fait combien de temps qu'il s'est battu. Attendez, je vais regarder ça vite fait. Mais bon, après, on est chez les lightweight, c'est ça ? Me semble-t-il que je regarde lightweight, donc ça fait 170 livres. Et chez One, là, ben, chez One, le roster est vraiment blindé, mais dans les catégories un petit peu en dessous, je pense. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas forcément énormément d'opportunités, je veux dire, de défense de ceinture. Donc là, ils ont mis Barboza direct après son premier combat. Alors moi, j'aurais préféré le voir, genre, se build-up un petit peu plus. Mais ouais, quand on regarde, par exemple, attendez, on regarde Regan Herschel. Alors, ses derniers combats, bon, lui, il s'est battu deux fois contre Nicky Olsen en 2019. Il l'a battu deux fois en cinq rounds. Il s'est battu contre un Italien en 2021, contre Islam Murtazaev en 2021. Il s'est battu contre un Bosniaque, Arjan Sadkilovic, 2022. Ah oui, Sean Samut. Ah ouais, le Thaï là, avec sa belle petite coupe de cheveux. Deux fois, il l'a battu aussi. En 2023, 2022-2023. Et il a battu un Russe aussi qui l'a KO. Ah ouais, Dimitri Menkishikov. Ouais, ça, c'était fou. En juin 2023. Donc, c'était ça, son dernier combat. Et là, il se rebat 6 avril contre Alexis Nicolas. Enfin, 6 avril, Bangkok Time. Donc, quasiment un an derrière, quoi. Pour du pied-poing chez One, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, clairement. Et bon, écoutez, maintenant, on va parler vite fait de Alexis Nicolas Barbosa, quand même, quoi. C'est excellent que le. Qui se retrouve d'avoir cette opportunité de se battre directement pour la ceinture. Enfin, je veux dire, c'est peut-être trop tôt. Comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré le voir se build-up un petit peu. Mais bon, écoutez, pourquoi pas le prendre, hein. Après, son dernier combat, Alexis Nicolas, j'ai bien aimé. Et il y a eu quelques petits détails à corriger, me semble-t-il. J'en avais parlé dans un podcast pour One Championship, bien sûr. Mais ouais, genre. Écoutez, c'est trop tôt. C'est trop tôt, mais l'opportunité est là. Donc, autant la prendre. Lui qui vient de la team Mahmoudi Jim, hein, parce que Elias Mahmoudi qui devait se battre contre Superlek, alors ça, je sais pas où on en est non plus. Mais voilà, je m'évade un peu. Mais écoutez, hein, on va être derrière Alexis Nicolas, hein, par principe, quoi. Hein, un petit peu, on va pousser le drapeau. Mais c'est cool pour lui, c'est cool à voir. On en parlera. Alors moi, malheureusement, je serai en vacances. Ça l'arrive, hein, écoute. J'ai le droit de partir aussi, comme tout le monde. Enfin, j'ai la chance de partir, surtout. C'est une chance de partir en vacances. Donc, je ne serai pas là. Je suis un peu dégoûté parce que la double carte, là, comme je vous dis, la carte avec John Dibella et la carte avec Barboza, je vais devoir les regarder en différé. Et si j'ai le temps, j'en ferai des podcasts, j'espère. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci, les amis. Abonnez-vous partout, hein. Demain, il y a encore un podcast. J'ai fait un podcast il y a 2 jours, évidemment, sur la carte de PFL Paris, où j'ai parlé du main et du co-main. Et aujourd'hui, une petite carte de One Championship. Et demain, évidemment, ce soir, il y aura UFC 299. Donc demain, le podcast sort sur UFC 299. Abonnez-vous partout, les amis, sur Twitter, @guillotine514, sur Instagram, @guillotine_podcast. Et oui, abonnez-vous partout sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple, enfin bref, voilà. Merci pour cette écoute, en tout cas, je vous remercie beaucoup et je vous donne rendez-vous évidemment demain, dimanche 10 mars, pour le podcast de UFC 299. Ciao les amis et bonne carte à tous les sacrements. At the end of the day, it is what it is.